Le premier séminaire du projet ANR Sensibilia, sensibilisé à l'enquête de terrain, continue avec l'atelier Petricor. L'équipe récolte différents types de sols sur le chemin de l'incinérateur Atanor à la maison de la création et de l'innovation à Grenoble.
Ouais. Alors c'était sur le parking, le petit endroit où on était là.
À quatre pattes, le nez, les yeux et les mains ouvertes, le sol devient le terreau pour repenser la relation entre le terrain et l'enquête, pour décentrer nos habitudes et nos certitudes.
Alors tu vois, ouais, si on avait des pédologues urbains, normalement en pédologie, tu classifies jamais un sol sans avoir creusé une fosse. Mais il est probable que si on creusait une fosse ici, il décrirait ça comme un technosol, ça c'est à peu près sûr. Ouais. À partir du moment où il y a plus de 20% d'artefacts, c'est un technosol.
Okay.
Probablement un technosol écranique, parce qu'imperméable. Ça, ce serait décrit comme la couche supérieure serait décrite comme du technique hard rock, de la roche dure technique.
Ouais.
Alors là, je ne sais pas ce qui se passerait.
Ouais.
C'est peut-être autre chose.
Là, on est juste dans la coupe.
Ouais, s'il creusait là, ce serait probablement écranique, mais là, il y aurait sans doute de l'eau qui passe, donc des processus de transformation. Et. Écranique. Alors, écranique, c'est que ça vient du russe en fait, écran, qui vient du français écran, qui est en fait une couche qui coupe les processus pédologiques, enfin qui empêche l'eau de passer, la vie, même si on peut quand même en trouver, mais les vers de terre on en trouvera peu. Et donc, ça influe fortement sur ce que ce sol va être et ce qui va se passer en dessous, donc écranique, parce que c'est cet écran qui est la variable. Pédogénétique, donc variable principale de transformation de jeunesse de ce sol, quoi. Et ici, ce serait sans doute autre chose. Et j'essayais de voir si on voit... Parce que, par exemple, si on voyait, par exemple, on ne voit pas ce qui se passe sur le toit, mais des dépôts dans les gouttières de matière organique, etc., ça peut aussi être décrit comme un sol, mais du coup, et aussi comme un technosol, probablement. Oui, ils appelleraient ça isolatique, du coup, parce que c'est la catégorie qui est aussi décrite pour décrire des sols qui s'accrochent sur des falaises ou des choses comme ça, parce que isolé, du coup, du reste du contexte, et donc la faune va être différente. C'est ça qui est marrant avec les pédologues urbains, c'est qu'ils voient du sol absolument partout, quoi. Et pas que dans les champs, et pas que dans les forêts. Et tu vois, Olivier, toi qui t'intéresse, donc... géobiologue, personne qui s'intéresse aussi au sous-sol. Je ne sais pas si tu avais suivi, dans le sud de l'Angleterre, il y a quelques années, il y a eu un procès qui a été fait à une compagnie locale des eaux. Des citoyens ont intenté, je ne sais pas s'il y a eu le procès, mais en tout cas, il y a eu un scandale, parce qu'ils voyaient ces techniciens se promener avec des baguettes de sourcier.
D'accord.
Et donc, ils disaient « We don't pay these people to do magic with our taxes, c'est quoi ce truc, etc. » Et il y a un anthropologue qui avait enquêté là-dessus, qui disait c'est très courant en fait pour eux d'utiliser ces baguettes. Et en fait, moi j'avais fait une enquête avec des radaristes, donc avant que EDF, qu'on vienne te mettre la fibre ou préparer des réseaux, il y a toujours des radaristes qui sont souvent des indépendants, qui viennent avec des radars et qui mettent au sol à la bombe, attention ici, réseau, gaz, ne pas creuser, tu vois, t'as déjà vu ça plein de fois sans doute au sol. Et en fait, c'était super intéressant parce que, tu vois, on peut se dire, ils viennent avec leur radar, ils trouvent le truc et basta. Et pas du tout. En fait, ils ont une observation du sol, de toutes ces découpes dans la route, de où est-ce qu'il y a des bouches, des trucs, etc. Tout de suite, ils visualisent là où passent tous ces réseaux. Ouais, incroyable. Et ils regardent aussi le sol, là, il y a un accident, là, tu vois, cette petite dépression, ça veut dire que tic-tac, etc. Et en fait, quand ils prennent leur radar... C'est juste pour dire, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Ça confirme en fait un truc qu'ils avaient déjà vu. Et ça m'a fait beaucoup penser aux sourciers.
Ouais.
Où finalement, toute cette qualité d'attention que tu as quand tu marches lentement le long d'une ligne, etc. Ouais. Tu vois, le débat s'est beaucoup concentré sur est-ce qu'il y a effectivement une énergie qui passe par la baguette, etc. Mais est-ce que c'est ça la question? Qu'est-ce qui se passe autour?
ça va être des sols vivants où il y a des bactéries, etc. Et qu'effectivement, au printemps, on a des productions. Le terre, humus, le corps, c'est plutôt lié à la.
On peut peut-être rebondir justement avec ce bout de sol scellé qui se trouve devant nous, qui est un des points de départ à une enquête sur les sols, parce qu'en fait, finalement, cette enquête par l'olfaction autour des sols, on n'est pas les premiers à s'être lancés dans ce type de démarche. Au 19e siècle, un grand chimiste, Michel-Eugène Chevreul, a commencé toute une réflexion autour des métabolismes des sols par le biais de l'olfaction. En fait, il allait prélever des échantillons de boue entre les pavés de la rue Bouffetard, dans le quartier de la Bièvre, qui était un quartier particulièrement pestilentiel, de par des activités de tanneurs, de mégisseurs, qui étaient développées le long du cours d'eau. Et Michel-Eugène Chevreul donc prélevait ces échantillons de boue qu'il mettait en macération, et c'est ce qu'on va vous proposer de faire dans un deuxième temps lorsqu'on arrivera à la Massie. Et donc il plaçait ces échantillons de boue dans de grands bocaux en verre, il les enfermait pendant plusieurs années, pour certains jusqu'à 6 ans, et après il ouvrait les bocaux pour les humer et par cette expérience olfactive essayer de comprendre la formation de sol, la formation de miasme. Parce que cette réflexion, cette étude des sols est née dans un contexte de sol en ville où la question de l'hygiène était clé. Peut-être que tu veux rebondir avec
oui,
ça.
Oui, c'est ça. On est au milieu du 19e siècle, avant la théorie des microbiennes, avant Pasteur, etc. Vous connaissez sans doute cette histoire, mais les sols étaient accusés d'être la source de miasmes qui corrompaient les corps et les esprits des urbains. Une grande période d'accusation par rapport aux faits urbains qui corromperaient, qui seraient source de maladies sociales et au sens classique du terme. Et donc, beaucoup d'enquêtes sur l'origine de ces miasmes. Et Chevreul se dit qu'il va faire une enquête par l'olfaction, essayer de classifier les odeurs en fonction des différents types de sols qui en sont à l'origine. Ça va pas durer très longtemps parce que peu de temps après, on va se rendre compte que la source des maladies ne sont pas les miasmes mais les microbes. Et donc toutes ces théories vont disparaître. Et pourtant, les préceptes urbanistiques de scellement du sol, d'isolation du sol par rapport à l'atmosphère, eux vont bien se perpétuer. La ville qu'on connaît aujourd'hui est largement une ville sans sol, où on exporte les matières organiques, où cette rupture métabolique se met en place, notamment via des dispositifs comme celui de l'incinérateur, et où donc finalement on balaye constamment ces surfaces minérales de manière à ce que du sol ne peut pas se développer dessus, enfin ce qu'on entend par sol généralement. Et pourquoi cette enquête de Chevreul par l'olfaction nous a paru si intéressante? Et c'est là qu'on rentre un peu dans la question du sensible ou des sensibilités. C'est que l'enquête pédologique aujourd'hui, enfin la pédologie, donc la science des sols actuelle, procède absolument pas par l'olfaction. Elle procède, en grande partie, classiquement, comme le disait Marc, par le creusement de fosses pédologiques. On va creuser une fosse, en général c'est 1 mètre sur 1 mètre, quelque chose comme ça, pour essayer de distinguer visuellement les différents horizons du sol, et essayer de comprendre comme ça comment ce sol, quelle est son origine, quels sont ses processus de formation, et puis aboutir à une classification du sol qui va potentiellement se traduire dans une carte des sols ou quelque chose comme ça. Il se fait qu'il y a des pédologues qui étudient aussi l'urbain, c'est pas que la campagne, et donc effectivement un pédologue pourrait venir ici, creuser une fosse ici, et regarder ça comme un sol. Et probablement, alors on ne peut jamais, sacrilège en pédologie de classifier ou de faire des hypothèses sur type de sol avant d'avoir creusé la fosse, mais bon, il classifierait probablement ça comme un technosol. C'est donc dans la classification de la FAO, les technosols sont des sols très anthropisés. Il y a aussi les anthroposols, ça c'est plutôt des sols agricoles. Les technosols sont typiquement des sols urbains, des sols de zones militaires qui ont été bombardés, des sols de décharges publiques, c'est-à-dire vraiment dont la pédogenèse, donc le processus de formation, est vraiment massivement influencé par des apports, des activités humaines et pas marginalement. Donc, pour que ça tombe dans la catégorie technosol, il y a plusieurs critères, notamment il faut qu'il y ait plus de 20% d'artefacts, donc c'est des bouts de briques, des choses comme ça. Et il y a une sous-catégorie de technosol, qui est le technosol écranique. Ça vient du russe, les Russes ont été pionniers là-dedans. Écran vient du français lui-même, et ça s'écrit avec un K, parce que c'est passé par le russe. L'écran, donc, bah, vous comprenez bien, c'est cet écran qui empêche en fait l'eau de passer, la vie probablement de se propager, même si on en trouverait sans doute. On peut supposer, mais il faudrait creuser donc une fosse pédologique pour le savoir, que cet écran d'asphalte est un facteur déterminant dans la pédogenèse, dans le devenir de ce sol, et donc il serait catégorisé comme écranique. Un sol, un peu de matière organique qui se déposerait dans cette gouttière là-haut ou sur ce toit pourrait être peut-être classifié comme un technosol isolatique. Qu'on trouverait aussi sur des falaises ou des choses comme ça. Ouais, il y a toute une série de technosols. Un sol de décharge publique serait peut-être un technosol garbique. Vous comprenez l'origine du mot, garbage. C'est un descripteur officiel de ces sols urbains. Il y a toute une série qui sont assez amusants à regarder, mais qui sont utilisés, quoi. En tout cas, c'est dans ces protocoles, c'est une description visuelle qui prévaut, même si on faisait un travail d'ethnographie des sciences, qu'on accompagne ces pédologues quand ils creusent, il y a bien d'autres choses qui se passent que du visuel, mais quand même, c'est ça le sens qui est sélectionné, qui est privilégié, comme dans beaucoup de sciences contemporaines quand même, comme étant celui qui donne un accès privilégié au réel, à une forme d'objectivité, etc. Et donc nous, on avait été très intrigués de voir que dans les années entre 1840 et 1860, une tentative de classification de sol urbain par l'olfaction se développe.
Et donc on est arrivé à cette question du « et si ?» Et si cette science des sols ne s'était pas tournée seulement vers le visuel, mais avait poursuivi cette enquête par l'olfaction.
Donc tout ce protocole Petrichor, c'est ce « et si ?» Et si on avait eu cette science des sols olfactives, qu'est-ce qu'on aurait ? Eh bien, allons-y, faisons cette enquête et cherchons des sols en reprenant et en adaptant ces protocoles de Chevreul qui datent des années 1860.
Et je peux peut-être là juste vous partager deux courts extraits de compte-rendu en fait, de Chevreul publié à l'Académie des sciences où il relate en fait de son observation, de sa mise en macération des sols à partir d'une matière noire prise entre et sous les pavés de la rue Mouffetard, près du pont aux Tripes. Cette matière avait une légère odeur d'écurie. Elle agissait sur l'aiguille aimantée. On l'a mis avec de l'eau dans un flacon fermé à l'émerie. Après 12 heures de macération, l'eau filtrée était légèrement alcaline, au papier rouge de tournesol. Le 20 décembre 1852, un papier de tournesol rouge plongé dans l'atmosphère du premier et du deuxième flacon redevient bleu. L'odeur du premier était très sensiblement ammoniacale. L'odeur du deuxième était ammoniacale avec une légère odeur de moisi. Et en regardant dans le flacon, on y apercevait des moisissures.
On continue ou est-ce que je sais pas s'il y a peut-être des questions
Oui, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des... des formes d'agriculture, je pensais notamment à la viticulture, dans lesquelles justement l'odeur du sol ou mettre le sol en bouche constitue une façon d'avoir sa propre science de la chose.
Si, bien sûr. Bah, les agriculteurs, mais les pédologues aussi en fait, touchent, sentent, goûtent le sol, pour savoir ce qu'on a à faire à un limon, un argile, des choses comme ça. Et c'est constant. Mais on ne va pas du tout retrouver ça dans un protocole scientifique ou dans un papier scientifique à la fin où on va uniquement avoir ces classes de description visuelle du sol. Mais en fait, je me suis un peu intéressé à la façon dont ces pédologues creusent ces fosses pédologiques. Dans un manuel de sciences des sols, on ne dit rien du tout sur le creusement de la fosse. On dit qu'il faut creuser une fosse. Et puis, bon, le travail commence quand on a les horizons, le profil. On dit qu'il faut bien nettoyer le profil, que ce soit bien propre, et puis on peut commencer à décrire. Mais pourtant, quand on les suit sur le terrain, ils savent déjà, avant même de commencer ça, du fait d'avoir creusé le sol, ils ont une idée très précise de ce qui se passe, parce que dans ce creusement, en fait, ils sentent comment ça se passe au contact entre la bêche, entre et puis ils voient des choses qui commencent à suivre, etc. Et donc dans ce creusement lui-même, qui n'est pas du tout pris en compte dans ce qui est valide en science des sols, c'est là que cette connaissance du sol se passe, en grande partie en tout cas. Et voilà. Donc effectivement, donc c'est ça, c'est tout le truc, le machin de la tour, les modernes ont la langue fourchue, ils disent qu'ils font ça, mais en fait ils font tout ça. Ça s'applique totalement ici et on peut pas dire que la science des sols est effectivement visuelle uniquement, mais elle n'admet dans son épistémologie, dans son qu'une appréciation visuelle.
Ah oui, du coup, oui, ça va.
Juste avant, ouais. Avant de continuer, donc juste un mot, on a discuté de Chevrel et de son enquête olfactive, mais il y a une autre, un autre moment d'enquête sur l'odeur des sols qui se passe dans les années 60, au Xiro, c'est un peu l'Irstea Inria australien, Xiro, où il y a des chimistes, donc Isabelle Baer et Joy Thomas, qui ont fait une recherche donc, sur le pétrichor, c'est-à-dire l'odeur des sols après la pluie, en se demandant d'où elle venait. Et alors, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est que tout de suite, ils expliquent bien que ce n'est pas l'odeur des sols. C'est plutôt un phénomène qui implique le sol, une pluie légère, un certain climat, une certaine pression atmosphérique, les organismes du sol eux-mêmes qui sont réveillés par tout ce contexte, qui vont produire une odeur, enfin des molécules qui vont être perçues par un humain comme étant donc l'odeur du sol après la pluie. Alors ils partent aussi dans tout un délire assez intéressant qui est de dire que pourquoi on perçoit cette odeur, ben, c'est probablement parce que depuis un certain nombre de millénaires l'humain fait de l'agriculture et donc ça l'intéresse de voilà, ce serait une sorte de trait sélectionné chez les humains de percevoir ce pétrichor dans le contexte d'une évolution agricole assez légère. Alors on raconte ça à des évolutionnistes, ils rigolent parce que c'est pas très plausible, mais enfin c'est quand même marrant comme anecdote. Mais il se fait que ce pétrichor a été étudié, on ne sait toujours pas aujourd'hui exactement ce qui le favorise. Vous l'avez tous perçu souvent, hein, probablement, même sans savoir que ça s'appelait comme ça, lors d'une balade en forêt, au printemps ou dans les champs.
Oui, ou l'été, en ville. Où ça implique aussi un temps en fait où le sol a été séché.
Ouais.
Cette odeur après la pluie, du béton sur...
Voilà, mais ça a souvent lieu au mois d'août, où le sol ou le bitume en fait a eu le temps de chauffer, et ça doit participer en fait à cette vie microbienne qui est réveillée par des petites gouttes de pluie qui libère. Alors il y a une distinction à faire avec la géosmine, mais qui libère un parfum. Donc il y a vraiment cette rencontre entre l'eau, l'air, le sol, et on trouvait intéressant par finalement, cette odeur, de trouver une sorte de forme processuelle de rencontre avec un lieu, de comment une odeur met en relation, ou en fait émerge de la mise en relation, de la mise en correspondance avec différents milieux. Et voilà. Et nous inclus aussi, parce que il y a finalement les éléments météorologiques, le sol, cette vie organique des sols. Et nous, être perceptifs à cette odeur du pétrichor.
C'est ça. Donc, parce que le pétrichor émerge dans cette interaction, ce n'est pas une chose, mais une entre-chose au sens de Karen Barad. Et donc, faire enquête par l'odeur, ça nous permettait de rentrer, puisque c'était la question de dans quel monde on entre par l'enquête, par la fiction. Ça permet d'entrer, de poser cette question de faites quoi faire enquête sur une entre-chose plutôt que sur une chose. Et il y a aussi toute une ethno-histoire intéressante du pétrichor. On parlait tout à l'heure de comment les agriculteurs, les constructeurs en terre sèche, en pisée, etc., connaissent aussi le sol. Les agriculteurs, souvent peuvent se dire « Oh là là, il va pleuvoir, il va se passer quelque chose » parce qu'ils sentent le pétrichor. Parce qu'en fait, il émerge avec une pluie légère, mais il peut être poussé par le vent et arriver dans des zones. Et donc, ça permet de prédire l'arrivée de la pluie d'une façon relativement fiable. Donc il y a aussi une ethno-histoire de ça intéressante, qui n'est pas ce qui nous a directement occupé ici. Mais,